Bonjour à tous, c'est Julien et vous écoutez bien Analyse F1. Aujourd'hui, je ne vais pas faire dans l'originalité concernant les chroniques que je vais traiter, puisque je vais parler logiquement des deux petites écuries qui sont en difficulté, Caterham et Marussia, et qui pourraient avoir quelques conséquences sur le championnat du monde de Formule 1. Alors en premier lieu, je vais parler de Caterham qui selon moi est en grosse difficulté, et quand je mets ce titre, c'est que je veux dire que je pense que Caterham est en plus grosse difficulté encore que Marussia. Même si évidemment ça pourrait s'inverser. Mais pour l'instant, disons que les étoiles ne sont pas alignées en faveur de Caterham, si l'on peut dire. Alors je vais revenir un peu sur ce qui avait fait l'actualité de Caterham il y a quelques mois, et ce dont j'avais parlé d'ailleurs dans une chronique. Alors si vous vous souvenez bien, Tony Fernandez avait vendu Caterham, et donc il y avait eu un consortium d'investisseurs qui avait racheté Caterham, ou du moins on pensait qu'il l'avait racheté, et ils avaient mis au devant la personne principale, la personnalité principale qui était au devant de ce consortium était Colin Coles, une personne bien connue dans le monde de la Formule 1. Il y avait également Christian Albers, nommé team principal. Bon, ensuite, Christian Albers était parti et avait été remplacé par Raveto. Voilà, mais à l'époque, si vous vous souvenez bien, j'avais nourri des espoirs pour Caterham. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le discours de la part d'Albers, notamment, enfin, globalement, des hommes, on va dire, qui ne sont pas des investisseurs, des hommes de la F1, des hommes du sport, qui étaient dans Caterham, et qui avaient un discours assez ambitieux. Ils voulaient vraiment redonner l'envie aux employés chez Caterham de faire bien, de faire leur travail bien, de travailler vraiment pour quelque chose, pour une amélioration. Il y avait déjà, d'ailleurs, un semblant d'amélioration avec l'aileron avant modifié, avec un changement de pilote également à Spa, enfin, il y avait pas mal de trucs. Et dernièrement, Caterham semblait revenir un peu, on va dire, à la hauteur de Marussia en termes de performance. Donc voilà, j'étais plutôt positif. Envers ce changement, et finalement la suite m'a donné un peu tort, puisqu'en fait il y a eu des soucis d'ordre financier qui vont se transformer en soucis d'ordre juridique d'ici peu. Puisque je vais vous raconter les faits. Donc Tony Fernandez a voulu vendre Caterham, il a avancé comme raison, c'est parce qu'il voulait se concentrer sur son club de foot anglais QPR. Qui est discutable, puisque dans une autre interview, il se contredit un peu en déclarant qu'il pourrait bien quitter QPR si les fans le demandent. Donc, c'est un peu mi-chaud, mi-froid, c'est un peu tiède, on ne sait pas trop ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voulait vendre l'écurie de F1. Il a réussi avec l'écurie de GP2, il a réussi à fermer les portes, et ensuite l'écurie de F1. Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque selon Fernandez, il n'aurait pas été payé. Et en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on peut dire avec les faits, c'est que l'entreprise qui gère l'usine de Liefeld, qui est l'usine de Caterham utilisée pour l'écurie de F1, n'a pas été rachetée. En effet, le consortium a, semble-t-il, racheté une entreprise, mais n'a pas racheté celle qui gère l'usine. Et du coup, Tony Fernandez argue de ça pour dire « Eh ben, vous pouvez plus utiliser l'usine, on bloque l'accès. » Et c'est pour ça qu'il y a eu des employés de l'usine qui n'ont pas pu rentrer un certain jour et les jours suivants. Donc voilà, je ne cherche en tout cas à mettre la faute sur personne là dans cette chronique, parce que on ne sait pas tout. Parce qu'il y a un dossier juridique en cours qui va apporter des réponses au tribunal, je pense. Et qu'on ne sait pas, qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi, d'où viennent les erreurs, si les torts sont partagés. On ne sait pas, il y a de multiples hypothèses possibles et bon, mieux vaut ne pas spéculer là-dessus. Donc voilà, attendons de voir en tout cas. Il y a une chose qui n'a pas été faite et qui était nécessaire, c'était de racheter l'entreprise qui gère l'usine de Leafield. De Leafield, pour mieux parler anglais. Mais ça n'a pas été fait. Donc ensuite, la conséquence, c'est que Caterham, là tout de suite, se retrouve sous administration judiciaire en attente d'un repreneur, parce que les repreneurs du fameux consortium qui avait racheté, enfin qui avait pensé racheter Caterham, ont souhaité que Caterham soit sous administration judiciaire en attente d'un repreneur, parce que selon eux, d'après leur communication en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Mais ils ont déclaré que ce serait mieux pour le team, pour qu'il puisse finir peut-être la saison. Parce que oui, il se pose la question que Caterham ne puisse pas faire les derniers Grands Prix, et déjà, pour le Grand Prix des États-Unis, c'est mort, vous ne verrez aucune monoplace verte, toutes deux vertes vêtues, puisqu'il n'y aura pas de Caterham. Et pour le Grand Prix du Brésil, ce n'est pas sûr non plus. Donc, ce n'est vraiment pas sûr hein, qu'il y ait des Caterham au Grand Prix du Brésil. Donc attention, et pour Abu Dhabi, attendons de voir aussi. Donc voilà, Caterham ne courra peut-être pas les prochains Grands Prix. Au grand dam des pilotes, hein, Kamui Kobayashi et Marcus Ericsson, qui n'ont pas caché leur tristesse, leur frustration, bon, mais qui ne peuvent pas en dire évidemment plus sur la situation. Donc ils attendent de voir, ils sont un peu dans l'expectative, ils sont un peu passifs dans l'histoire malheureusement, mais pourtant c'est eux qui sont touchés, les pilotes, ainsi que les employés. On n'en parle pas trop des employés, mais il faut en parler parce que déjà que le moral pouvait être mauvais, situation de stress au vu de la situation de l'écurie, tout le monde est au courant, donc eux aussi, ils en font partie. Des résultats vraiment faibles cette année, ils sont derniers du championnat du monde des constructeurs, donc encore une saison noire. Et là, il y a cette affaire, donc le moral est au plus bas. Et voilà, et sportivement, l'année dernière, dominé par Marussia, cette année aussi, c'est moyen parce qu'ils le savent, ils se disent, eh bien, on fait la voiture de la loose, on est les losers, donc c'est mauvais, et on rajoute à ça une affaire dont Caterham n'avait vraiment pas besoin. Et bien ça va les plonger. Et là, je me pose la question pour qu'il y ait vraiment un repreneur. Parce que Caterham, je pense que la situation financière est très mauvaise. L'usine d'Holyfield, en plus, est semble-t-il pas vraiment optimisée pour un développement, un bon développement d'une monoplace de F1. Ce ne serait pas des installations assez moderne, on va dire, assez contemporaine. Donc voilà, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour qu'un éventuel acheteur vienne taper la porte de Tony Fernandez et lui dise j'aligne l'argent, je suis motivé, je vais redresser l'écurie Caterham. Et Caterham, en plus, la marque, voilà. Après, peut-être qu'une marque pourra en profiter pour s'incruster en F1. Et pourrait racheter Caterham pour ça. Peut-être, mais bon, comme je l'ai dit, l'usine, il faudrait peut-être en changer. Ouais, c'est quand même compliqué, hein. Caterham, c'est pas le meilleur plan, honnêtement. C'est vraiment pas le meilleur plan. Donc, je suis très dubitatif. Et on verra peut-être la mort de Caterham à la fin de la saison, hein. Faudra suivre ça dans les mois qui viennent. Mais ça va être compliqué, surtout que je crois que. En étant sous administration judiciaire, ils ont un certain délai. Je crois que c'est un délai de 60 jours. Hein. Je veux pas me tromper, n'hésitez pas à me le dire si je confonds avec autre chose concernant le délai. Mais il me semble qu'ils ont un délai de 60 jours pour trouver un acheteur. Donc ça fait 2 mois, 2 mois à voir. Ça va être compliqué. Surtout qu'il y a une autre écurie de F1 qui cherche un repreneur. Et oui, et ça c'est inattendu de la part de Caterham. Et ça va être encore plus compliqué du coup parce que Marussia, selon moi, est mieux que Caterham pour trouver un repreneur et je vais vous l'expliquer après la pause musicale. La pause musicale, c'est un titre de White Blues. Ça s'écrit Y Blues, hein, ça se prononce White Blues à l'anglaise. Ce groupe que je vous avais présenté lors de l'émission numéro 2, eh bien, c'est reparti, je vous en rediffuse une couche et cette fois-ci d'un autre titre. qui s'appelle The Arrival, un titre de l'album éponyme d'ailleurs. Allez, c'est parti pour du White Blues, à tout de suite. Nous sommes de retour dans Analyse F1 et vous avez pu écouter The Arrival par le groupe White Blues. Plus d'informations sur leur site internet whyblues.com. Et d'ailleurs, si vous aussi vous êtes artiste, si vous connaissez un groupe, si vous faites partie d'un groupe plus particulièrement, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je diffuse vos musiques. C'est le but également d'un tel podcast, c'est de diffuser des musiques indépendante, de faire connaître des artistes méconnus, et ce, quel que soit le genre, hein, je ne suis pas réfractaire, ça peut être du hip-hop, du rap, du rock, du, je sais pas, du reggae, du blues, n'importe quoi, tant que ça ne prône pas quelque chose d'illégal, moi je suis pour, hein. N'hésitez pas, vraiment, ça me fait plaisir, et puis si ça peut vous faire plaisir, eh bien tant mieux. Et donc on est de retour pour parler de Marussia. J'avais intitulé cette chronique La situation tristement paradoxale de Marussia. Et oui, je pense que tous les mots sont pesés, puisque ben, déjà je vais revenir à la situation de Marussia, normal, qui est similaire à Caterham, parce que là Marussia c'est officiel, enfin c'est officiel, c'est sûr, ils seront absents à Austin. Donc on aura seulement 18 monoplaces pour le Grand Prix des États-Unis, une première depuis 2005, depuis Monaco 2005 avec l'exclusion de Baronda. Donc ça remonte à longtemps mais là c'est quand même deux écuries en moins. Donc ça fait beaucoup et pareil que Caterham, Marussia est sous administration judiciaire et cherche un repreneur. Ensuite, comme si ce n'était pas suffisant pour cette écurie, il y a eu l'accident de Jules Bianchi, hein, je le rappelle pas, hein, je pense que nous l'avons tous en tête et nous l'aurons tous pendant très très longtemps, voire si ce n'est toute notre vie, parce que c'est quand même, en tant que passionné de F1, tel que vous l'êtes, tel que je le suis, c'est très marquant, on espère ne jamais connaître ça, ne jamais voir ça pour un pilote. Finalement, ces pilotes, on se met, comment dire, on les comprend, on comprend leur passion, on comprend leur risque, leur sport, et ça fait d'autant plus mal quand on comprend tout ça. Voilà, donc il y a eu cet accident qui a fait beaucoup de mal à l'écurie, d'un point de vue moral, et également à l'usine, parce que les employés, faut bien se rendre compte que, mis à part les résultats, quoique les résultats, là, ils étaient de mieux en mieux, avec les 2 points à Monaco quand même. Ils étaient de mieux en mieux. Mais avec l'accident de Bianchi qui fait mal, franchement, parce que même s'ils sont à des milliers de kilomètres et qu'ils voient quasi jamais les pilotes, les employés, ils regardent, je pense, pour la majeure partie des courses, parce que c'est quand même des pièces qu'ils ont confectionnées, qu'ils ont conçues, qu'ils ont assemblées, montées. Et là, ils voient tout ce travail, que finalement, c'est leur travail. Qui fait ça, même s'ils ne sont pas coupables. Hein. Il ne s'agit pas de les culpabiliser, évidemment. Mais eux, évidemment, il y a certainement dans leur for intérieur, il y en a certains qui doivent avoir mal, quoi, qui doivent se dire, ah, si on avait conçu une meilleure pièce, peut-être que, alors que non, ben, c'est des conditions particulières et tout. Mais voilà, le moral des employés chez Marussia, ça ne doit pas être très bon. Surtout qu'il y a un risque de licenciement si jamais Marussia ne trouve pas repreneur, et oui. Et ça touche également Caterham, hein, je l'ai pas dit, mais ça touche également Caterham. Donc risque de licenciement, donc un stress. Voilà, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, des fois, le monde de la Formule 1. Mais bon, il y a quand même un élément positif, c'est qu'apparemment, d'après la communication de Marussia, les employés, le staff de Marussia, les employés ont été payés. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, déjà. C'est déjà une bonne chose parce qu'on a vu certaines écuries passer des crises et ne pas payer ses employés, en premier lieu d'ailleurs certains pilotes. Hein, on a vu, je crois que c'était l'année dernière qu'il y avait ce cas qui s'était. Oui, c'était l'année dernière, en 2013, il y avait plusieurs pilotes non payés. C'était assez fou. Voilà, mais pourtant, malgré tout ça, malgré tout ce négatif, là, il y a quand même un truc de très positif. Quand on met en perspective le positif et le négatif, le positif n'annulera jamais le négatif. Mais je veux dire, c'est que paradoxalement, si on prend la situation sportive pure, c'est-à-dire les points, le championnat du monde des constructeurs, Marussia fait une saison historique. Ils ont marqué 2 points. Ils sont devant deux écuries au championnat. Ils sont 9e, devant Sauber et Caterham. C'est exceptionnel pour cette écurie. C'est exceptionnel pour cette écurie. Mais malgré ça, malgré cette saison historique, il y a. Tout le reste, c'est la saison noire de Marussia. C'est une saison noire. C'est vraiment triste, hein, c'est vraiment triste, hein, de se dire ça, alors qu'ils ont marqué 2 points, leurs 2 seuls points. C'est très bizarre comme situation à vivre pour Caterham, mais ça peut les aider. Ces 2 points, dans leur malheur, peuvent les aider. Pourquoi? Parce que il y a des arguments du coup pour un preneur par rapport à Caterham. Il y a les 2 points, c'est-à-dire qu'à la fin de saison, il y aura entre... Bon, ça dépend des sources, hein. J'ai lu diverses choses, mais a priori, il y aura environ 50 millions d'euros reversés à Marussia au titre des droits FOM, c'est-à-dire la redistribution des droits télé. Donc, ça a un argument. Ensuite, il y a les dettes de Marussia qui sont de 38 millions d'euros environ, et qui apparemment seraient épongées par un éventuel repreneur. Là, apparemment, il y a un repreneur qui serait intéressé pour reprendre Marussia déjà, et qui épongerait de loin les dettes de l'écurie. Et en plus, après, il y aurait le bonus à la fin de saison. Donc, il y a de l'espoir pour Marussia. Mais même si ce repreneur décide finalement, ne trouve pas un accord avec le propriétaire russe de Marussia, à mon avis, il y aura des autres offres. Mais là, c'est là où c'est triste pour Caterham, si ça met trop de temps pour Marussia, parce que Marussia est, je pense, le coup le plus intéressant. Contrairement à Caterham et tout ce que j'ai dit, il y a très peu de points positifs pour Caterham. Très peu. Alors que pour Marussia, il y en a, surtout qu'en plus, Marussia qui peut se vanter d'être une écurie russe. Il y a un Grand Prix russe, il y a un pilote russe. La Russie commence à s'implémenter en F1, donc ça pourrait être le bon plan. Donc il y a d'espoir pour Marussia. Ensuite, et pour finir d'ailleurs, pour finir ce podcast qui finalement aura été court, il n'y avait pas grand-chose à dire. L'actualité de la F1, c'est vrai, ces derniers jours s'est concentrée surtout, enfin l'actualité que j'ai trouvée intéressante à analyser, se concentrait surtout sur Marussia et Caterham. Très peu d'autres choses, mais j'ai déjà des idées pour des futurs podcasts. Parce que j'ai envie de parler d'Alonso, mais j'attends qu'il fasse son choix, le petit. Il faut qu'il fasse son choix, là, que je puisse en parler, que je puisse analyser tout ça. Ce serait intéressant, mais je sais déjà, j'ai déjà des trucs à dire sur le cas Alonso. Mais il faut attendre un peu. Bref. Pour finir, j'ai envie également de regrouper, on va dire, les cas Marussia et Caterham pour voir les éventuels, ce que ça peut provoquer dans la Formule 1 en général. Ça peut, tout d'abord, la situation des deux écuries, ça peut reposer la question de la diminution des coûts de la F1, évidemment. Ça repose évidemment la question. Et d'ailleurs, je l'ai lu en interview qu'il y avait, je sais plus, c'était du côté Marussia ou Caterham, où on sentait de la frustration dans une interview au niveau des coûts de la F1 et au niveau de la redistribution, pardon, des droits FOM. Mais bon, la redistribution des droits FOM, Marussia et Caterham, c'est quand même des écuries qui n'ont eu aucun point au championnat du monde des constructeurs avant cette saison. Donc c'est bien normal que la part du gâteau, il se la soit pas trop taillée, on va dire. C'est plus discutable pour des écuries de milieu de tableau qui font un exploit ou en haut du tableau où il y a certaines, on va dire, certaines choses plus ou moins bizarres. Mais voilà, en tout cas, concernant la réduction des coûts de la F1, je suis d'accord. On a promis, la F1 a promis aux nouvelles écuries, en l'occurrence à l'époque HRT, Caterham et Marussia, oui, vous inquiétez pas, il y a une réduction des coûts en F1 qui s'amorce, et c'est vrai, concernant pas mal de points, il y a une réduction des coûts qui s'amorce, mais le truc, c'est que cette année, on a eu un gros changement avec le V6 turbo hybride, et ce changement a finalement occasionné des dépenses folles afin de développer la monoplace, afin de développer l'unité de puissance, tout ce qui va avec, ça a demandé finalement beaucoup d'argent. Et donc, en fait, le plan du V6 turbo hybride, c'est de faire de la réduction des coûts sur le long terme. Parce que là, sur le court terme, c'est vraiment pas de la réduction des coûts, c'est même l'inverse, hein. C'est Red Bull qui l'avait dit d'ailleurs en début de saison, côté réduction des coûts, on a quand même dépensé 1 milliard, hein. Donc bon, ils sont bien gentils, mais c'est pas trop le cas pour l'instant. Donc voilà, sur le court terme, non. Donc évidemment, ça a fait mal. Ça, c'est peut-être le coup de grâce. Ça a peut-être été on va dire, une partie de ce qui a fait l'échec de Caterham et Marussia cette saison, l'échec financier. Il y a peut-être de ça également. Ensuite, quelles conséquences si on perd une ou deux écuries en F1? Eh bien, selon moi, c'est pas dérisoire parce que je vois quand même pas mal de personnes qui disent ouais, bon, Caterham et Marussia, on les voit jamais, ils se prennent un tour à chaque fois, voire deux tours, ils font leurs courses dans leur coin, c'est pas intéressant, on s'en fout. Oui, mais non, il faut pas raisonner comme ça. Même si on pourrait raisonner comme ça si on s'attache qu'à la course pure, mais malheureusement, enfin, la F1 ce n'est pas que ça. Et donc, si on perd une ou deux écuries, il faut bien raisonner que ça fait. Il faut bien penser que ça fait une place de moins à prendre pour une écurie de fond de tableau. Ça veut dire qu'une écurie de fond de tableau, par exemple, s'il reste par exemple que Marussia la saison prochaine, ou s'il reste ni Marussia ni Caterham, prenons le pire scénario. Eh bien, les écuries de fond de tableau, ça sera qui? Ce sera Sauber, Lotus peut-être. Peut-être Force India si jamais il développe une mauvaise monoplace l'année prochaine. Mais imaginons Sauber en fond de tableau. Après, pour la répartition des droits, et même si la monoplace Sauber serait meilleure, on va dire, plus rapide, plus performante qu'une Marussia ou qu'une Caterham d'aujourd'hui, eh bien, au niveau de la répartition des droits, ça serait, je pense. Même si ça serait réadapté, finir dernier, ça serait très compliqué. Ça serait très compliqué. Et même en termes d'image, pour Sauber, ça serait compliqué. Donc voilà, c'est quand même utile qu'il y ait des écuries de fond de tableau. Et qu'il y ait une lutte, une bonne lutte. Et puis que ces écuries de fond de tableau soient pas non plus trop lentes. Mais de toute façon, il y a la règle des 107%, je crois. 107%, oui. Qui peut limiter ça. Donc voilà, je vois pas le problème des écuries de fond de tableau, elles sont utiles à la Formule 1, et si elles ne sont pas là, elles poseraient d'autres questions. Par exemple, la question des trois voitures, on en a parlé cette saison tout du long, parce que tout du long, il y a eu un doute selon lequel les écuries de fond de tableau resteront en F1, selon lesquelles Sauber restera en F1, selon lequel Lotus restera en F1, bref, pas mal de doutes. Et au final, du coup, ça a posé certaines questions au sein de la Formule 1. Concernant le fait de mettre trois monoplaces par écurie. Donc voilà, c'est une problématique qui pourrait se poser. Une mauvaise problématique, selon moi. Et aussi, une autre problématique que j'ai vue récemment, selon laquelle une écurie forte pourrait fournir à une écurie de fond de tableau un châssis, une monoplace, et exiger le pilote pour cette monoplace. Voilà, ça pourrait poser on va dire des problèmes système D. Je vais les appeler système D, ces problèmes, parce que c'est vraiment ça. Donc ce serait compliqué. Et évidemment, perte des écuries, ça signifie perte d'emploi dans les usines. Donc évidemment, on souhaite pas ça aux gens. Perte d'emploi un peu partout. Donc bon, ce serait pas très bon. Voilà, donc à mon avis. J'espère vraiment que Marussia et Caterham vont s'en sortir. Selon moi, pour Marussia, c'est quand même mieux amené que pour Caterham, surtout qu'il y a eu une offre. Il y a eu une offre pour Marussia il y a peu, très très peu de temps après avoir été mis sous administration judiciaire finalement. Alors pour Caterham, faudra voir. Mais à mon avis, Caterham doit espérer que Marussia soit reprise vite, parce que le plus vite Marussia sera reprise. Eh bien, plus il y aura de la place pour Caterham. Hein. Ça c'est sûr. Donc il faut le souhaiter, même si c'est des écuries qu'on voit pas trop. Ça peut permettre de lancer des jeunes aussi en F1. Oui, du point de vue des pilotes, plus d'écuries également égale plus de place en F1. J'en parlais en plus des baquets, du phénomène de limitation des baquets, du fait que le nombre de baquets est très limité en F1, que comme il y a pas mal de d'écuries fortes et surtout de pilotes forts, eh bien ça bloque pas mal pour entrer en F1. En plus, il y a la problématique des pilotes payants qui restent en F1, je reprécise bien qui restent. Je vous invite, si vous ne comprenez pas pourquoi j'insiste sur ça, à vous référer à un podcast où je parlais des comment dire, des pilotes payants. Je sais plus dans lequel c'était. Je sais plus si c'était finalement. Non, c'était pas dans un podcast consacré exactement aux pilotes payants. Donc je pourrais pas vous dire lequel c'est. Je suis désolé. Mais voilà. peut-être que vous vous en souvenez, là où j'en ai parlé. J'en avais parlé dans l'émission sur les top teams historiques, mais j'avais reprécisé quelque chose dans une autre chronique, et c'est celle-ci que je ne me rappelle plus. Donc voilà, on espère vraiment pour les pilotes également que les deux écuries s'en sortiront. Voilà, donc là, l'intérêt, là, ce qu'on peut espérer, l'espoir que l'on doit avoir, c'est la sortie du trou, la sortie du tunnel, tout ce que vous voulez comme expression, mais que ces écuries s'en sortent. Et en plus, il y a des contrats. Il y a un contrat. Ah oui, il y a des contrats qui lient la F1 et les écuries selon lesquelles il doit y avoir au moins 20 monoplaces. Sur le plateau, sur un Grand Prix, sauf cas de force majeure, évidemment, ce qui a été invoqué pour le Grand Prix d'Austin, par exemple. Donc, à voir ce que ça va donner plus tard pour respecter cette règle étrange. On va bien voir. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas en commentaire, que ce soit sur n'importe quel site sur lequel vous écoutez Analyse F1. Si vous voulez vous écouter par PodCloud directement ou par PodRadio, sachez que vous pouvez m'envoyer par mail. Concernant PodCloud, vous avez mon mail normalement en bas de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et m'envoyer vos commentaires. Également sur les réseaux sociaux, Twitter, @F1Analyse, sur la page Facebook d'Analyse F1. Et sur Podcast France, voilà, vous avez quand même de multiples moyens de me contacter. Je lis tout. Sachez que je lis tout, même si je ne vous réponds pas tout le temps. Je lis tout, je prends bien note et j'essaye de peser le pour et le contre afin d'améliorer ces podcasts. Voilà, finalement, j'ai pas fait court, mais j'ai vu que le temps passait, que finalement j'avais le temps de parler, de développer des points supplémentaires. C'est pour ça que je l'ai fait tout simplement. Eh bien, je vous remercie et bon Grand Prix d'Austin à tous. Et ensemble, vivons notre passion. Ciao.